Le chômage vous occupe, le chômage vous préoccupe. Occupez les AMPE, occupez les AMPE. Alors qu'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé, qu'un chômeur indemnisé sur deux touche moins de 3 000 francs par mois, que ces 100 000 jeunes de moins de 25 ans interdits de RMI n'ont droit à aucune indemnité. Les pouvoirs publics de la 4e puissance économique mondiale refusent toujours d'entendre les revendications des chômeurs et des précaires.
Bonsoir, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur FPP dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. Ce soir, nous poursuivons notre série Le chômage au cinéma avec un film tiré de la pièce d'Arthur Miller, Mort d'un commis voyageur. Gilles, tu peux nous dire deux, trois mots sur le film d'abord ?
Oui, le film bien sûr, mais le film a repris la pièce, qui est une pièce de 1949. Et qui a obtenu quand même, faut quand même le dire, le prix Pulitzer, 3 Tony Awards et le New York Drama Critics Award. Et le public était friand de voir une pièce de théâtre qui parlait un petit peu de la critique sociale aux États-Unis. C'est une sorte de huis clos, hein, donc d'une famille américaine classique. Et en fait, c'est une remise en cause un petit peu de la façon dont les gens travaillent aux États-Unis, comment ils sont considérés dans leur travail.
Il faut préciser, concernant Arthur Miller, que c'est quelqu'un qui a vécu ses premières années professionnelles pendant la Grande Dépression, et qu'il en a été extrêmement marqué, qu'il a eu beaucoup de sympathie pour les idées communistes, puisque on lui reprochera plus tard, hein, au moment du McCarthyisme. Alors pourquoi Mort d'un commis voyageur à Mode d'emploi, puisque c'est pas tout à fait sur le chômage, c'est un peu sur le chômage, mais pas tout à fait. Déjà, on peut dire que c'est un film qui dépasse largement les thèmes qu'il aborde. Et c'est vraiment un grand auteur de théâtre, puisque il nous parle du travail, mais il nous parle pas que du travail. Il nous parle du chômage, il nous parle pas que du chômage. Il nous parle du rêve américain, mais il nous parle pas que du rêve américain. Il parle de tout ça en mettant en scène, à travers les relations d'une famille entre elles. Comment la famille se constitue, quel est le rêve qu'on va transmettre à ses enfants.
Il ne parle pas tellement du chômage, il parle surtout des conditions de travail et du stress qui est induit par ces conditions de travail.
C'est rien. Je suis rentré.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il t'est arrivé quelque chose?
Non.
Oh, tu as démoli la voiture, c'est ça?
Non, je t'ai dit qu'il ne s'était rien passé. Tu es sourde?
Tu ne te sens pas bien?
Je suis vidé, tu veux dire. Je n'ai pas pu. C'était trop pour moi, Linda.
Mais qu'est-ce que tu as fait si longtemps? Tu as une mine horrible.
Oh, j'ai réussi à aller un peu plus haut que Yonkers. Et je me suis arrêté pour boire un café. C'était peut-être bien le café qui...
Quoi, le café?
Tout d'un coup, je ne pouvais plus conduire. Je me fichais dans le fossé sans arrêt.
Alors, voilà, bon, on vient d'entendre le tout début du film. Alors, on a un monsieur Loman, Willy Loman, qui rentre un soir. Apparemment, c'est quelqu'un d'âgé, quelqu'un qui a à peu près 63 ans, la soixantaine passée, et qui fait la route pour gagner sa vie. Et là, qui aujourd'hui n'a pas pu aller jusqu'au bout et a préféré rentrer chez lui. Voilà, on sent que ce Willy Loman est quand même très fatigué, qu'il a beaucoup couru les routes et qu'il commence à avoir du mal à faire son métier.
Alors, dans cette première scène, apparaît bien sûr qu'il est âgé, qu'il a failli avoir un accident, il renonce, puisque même s'il arrive le soir, sa femme est étonnée parce qu'il arrive plus tôt que ce qui était prévu, il était parti pour plusieurs jours normalement. Et après avoir examiné différentes conditions, l'état de la voiture, son état de santé par lui-même, sa vue, non, il est obligé de s'en rendre compte qu'il n'est plus du tout attentif à la conduite et que c'est pas le physique qui a lâché, c'est bien le mental.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Claude. Je pense qu'effectivement, tu as raison, c'est le mental, mais c'est aussi le physique. Je pense que ce monsieur est au bout du rouleau, parce que son patron lui demande d'aller toujours plus vite, d'aller toujours plus loin. Et comme il commence à être fatigué parce qu'il est âgé, donc il a 63, 65 ans, je sais pas à peu près, qui devrait être en retraite, on peut dire ça en rigolant, mais ça serait logique, a priori. Donc, pour nourrir sa famille, comme disait Ludo tout à l'heure, il est obligé, pour travailler, pour pouvoir gagner sa vie, il est obligé de faire plus, toujours plus. Et là, effectivement, il n'a pas pu, donc il rentre chez lui plus tôt que prévu, effectivement.
Les garçons sont là ?
Oui, ils dorment.
Est-ce que Biff a dit quelque chose après mon départ ?
Oh, tu n'aurais pas dû le critiquer, surtout pas de son arrivée. Et pourquoi faut-il toujours que tu te mettes en colère ?
Quoi ? Ce que tu appelles me mettre en colère, c'est demander s'il gagne sa vie. C'est ça, le critiquer ?
Oh, Willy, chérie, comment penses-tu qu'il puisse gagner sa vie ?
Non, je sens qu'il y a quelque chose de souterrain. Il est devenu renfrogné.
Moi, je crois qu'il va se trouver, que vous cesserez de vous quereller tous les deux.
Alors, tu crois qu'il va se trouver dans une ferme ? C'est une vie, ça, une ferme ? Au début, quand il était jeune, j'étais d'accord. Bon, un jeune homme, ça lui fait du bien de vadrouiller, de changer d'emploi. Mais il y a plus de 10 ans que ça dure. Et il fait pas 35 dollars par semaine.
Il finira par se trouver.
Alors, demain matin, je vais lui en parler. Je vais lui trouver un boulot de vendeur. Oh, il peut faire des étincelles en moins de 2. Rappelle-toi, à la fac, tout le monde l'adore.
Oui.
Ah oui. Il se montrait et les visages s'illuminaient.
Comme on vient de l'entendre, Arthur Miller présente d'abord une situation familiale dans un huis clos. Alors on comprend qu'un des enfants est rentré après pas mal d'années d'errance à travers les États-Unis en donnant des nouvelles de loin en loin et qui retrouve son frère et qu'exceptionnellement ils vont dormir chez les parents et que le fils cadet, donc le plus jeune, Biff n'a pas de travail, n'a pas de situation, erre en fait. Et il explique très bien dans la scène pourquoi. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très contemporain ce qu'il raconte, puisque effectivement, il y a beaucoup de. En ce moment, beaucoup de jeunes gens se retrouvent à 30 ans chez leurs parents sans avoir de travail. Mais surtout, lui, ce qu'il critique, c'est l'espèce de mode de vie qu'on lui propose après ses études, c'est-à-dire effectivement un employé, des boulots d'employé, de vendeur, où il faut marcher sur la tête du copain pour réussir.
Oui, c'est donc la présentation des deux fils qui ont choisi des voies différentes pour arriver, en fin de compte, au même point. C'est-à-dire, il y en a un qui a un boulot minable, mais qui est encore chez ses parents, et puis l'autre qui revient d'une manière passagère, mais qui vit depuis plusieurs années à l'extérieur, aux États-Unis, mais assez loin, et qui, en fin de compte, a un rêve d'une situation sociale bien plus élevée et qui n'a rien, en fin de compte.
Je m'étais bien promis de ne pas gâcher ma vie et maintenant que je suis de retour ici, je sais que je n'ai fait que gâcher ma vie. Moi, je suis un peu comme un gamin, pas d'emploi, pas de femme, exactement comme un gamin. Toi, t'es satisfait, Abby ?
Oh.
Tu as réussi, alors tu es satisfait ?
Ah, non.
Pourquoi tu gagnes pourtant bien ta vie ?
Je n'ai rien d'autre à faire des horreurs du directeur. C'est mon seul espoir.
Pourquoi tu ne viendrais pas dans l'Ouest avec moi ?
Nous deux ?
Oui. Peut-être qu'on pourrait acheter un ranch, élever du bétail. Les mecs bâtis comme toi et moi sont faits pour vivre en plein air.
Les frères Lehman.
Happy, toi et moi, on serait les rois du pays.
Biff, c'est mon rêve, ça. Je me dis parfois que je vais me mettre à poil en plein milieu du magasin et boxer mon directeur. Non, écoute-moi, Biff. Je les bats tous quand je veux, à la boxe, à la lutte, à la course, et je dois leur obéir à ces minables.
Tu sais, si tu veux bien m'accompagner, je serai.
Attends, Biff. Ceux qui m'entourent mènent une vie si factice que je perds souvent
mais
de vue
mon
idéal.
Mon petit vieux, si on pouvait s'appuyer l'un sur l'autre, on aurait quelqu'un sur qui compter. On n'a pas été élevés pour gratter comme des gangs petits.
Tu l'as dit.
Alors en route.
Seulement, il y a un truc. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas ?
Oui, alors on l'entend dans le film. Il y a d'abord cette nostalgie d'un temps passé où Willy Loman s'est installé dans une zone qui était encore verte, où il n'y avait pas trop d'habitations. Puis peut-être 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, il regarde autour de lui en disant « Mais voilà, tout est construit, tout est urbanisé, c'est l'horreur, il y a du monde partout, il y a la puanteur dans l'immeuble, ou le sentiment d'étouffement. » De sa vie, quoi. Elle a l'impression que sa vie s'est étriquée. Et puis, le plan passe sur ses deux fils, qui sont ensemble dans leur chambre d'adolescents et qui se disent « mince, c'est difficile ce qui nous attend, alors, chacun se regarde, toi t'en es où ?» Et c'est, ce qui est marrant, c'est que dans ça, on voit dans l'Amérique, il y a le rêve de l'Ouest américain, toujours le rêve de la nature, du contact avec la nature des Américains, et en même temps le rêve de la réussite aussi, et de la concurrence, d'avoir à prouver quelque chose. Et ces deux rêves-là ne sont plus tellement compatibles. A priori, pour grimper dans cette société, il faut renoncer à la grande vie et être un petit employé et gravir les échelons progressivement.
Oui, mais ce qui est très intéressant dans cette scène, c'est surtout le fait que un des deux frères dit à l'autre je suis plus fort que l'ensemble des cadres en boxe, etc., etc. Et je suis obligé de leur obéir. Donc là, on est dans une sorte de croyance sur ses compétences ou bien ses réelles compétences, peut-être. Donc, d'être plus fort, d'avoir vraiment des compétences pour être à un meilleur poste et de rester en fait à un poste subalterne ou d'esclave. Et en plus, on sait, grâce à cette scène, que quand le père dit à sa femme que son fils, il va peut-être trouver pour son fils un poste de vendeur, qu'en fait, c'est plus ou moins le métier qu'il fait aussi. C'est-à-dire qu'on est là un petit peu dans le « je veux que mon fils fasse la même chose que moi », etc. Et donc là, et quand il dit, par exemple, qu'il y a de plus en plus de monde et qu'il y a beaucoup plus de bâtiments et donc qu'il y a beaucoup plus de concurrence, il parle en fait de lui aussi. Donc effectivement, avant, il était seul vendeur sur un quartier et tout le monde l'aimait bien. Et là, ils sont plusieurs vendeurs et là, maintenant, il y a beaucoup moins de gens qui achètent ses produits.
En fait, on s'aperçoit aussi que les jeunes sont encore sur l'ancien vieux rêve américain. Il parle même de s'installer à l'Ouest, donc le coup de la conquête de l'Ouest. Alors qu'en réalité, tout se joue à l'Est. Tout se joue, justement, dans les grands groupes et dans les grandes villes de l'Est. Hein. Donc, même ces jeunes-là, ils ont l'éducation de leur université, puis l'éducation du père, quoi, sur certaines valeurs, alors que tout a changé autour d'eux, quoi. Ils sont plus du tout dans le coup, quoi.
Alors, quoi de neuf, les garçons ?
Eh, hey, dites-moi un peu.
Où tu travaillais ? Tu nous as manqué ?
Ah, je vous ai manqué.
Tu nous manques tout le temps.
C'est vrai, je vais vous dire un secret. Motus est bouche cousue. Un beau jour, je serai mon propre patron et je ne voyagerai plus jamais.
Comme oncle Charlie,
oh,
hein ?
Mieux qu'oncle Charlie, parce que Charlie n'est pas aimé. Disons qu'on l'aime bien, mais c'est pas assez.
Où est-ce que tu es allé ?
J'ai pris la route du Nord jusqu'à Providence. J'ai vu le maire.
Le maire de Providence ?
À l'hôtel, il était assis à une table.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a dit bonjour. Belle ville. Encore deux villes du Massachusetts et hop, Portland et Bangor et retour à la maison.
J'aimerais bien t'accompagner une fois.
On fera ça cet été.
C'est promis ?
Oui, on ira tous les trois, je vous ferai visiter les villes. Bernard ne doit pas être très aimé.
Papa, on l'aime bien, mais c'est pas assez.
Exactement, Bernard peut bien se payer tous les succès scolaires, mais quand ce sera pour de bon, dans les affaires, vous lui mettrez cinq longueurs dans la vue. Et c'est pour ça que je remercie le ciel de m'avoir donné deux Adonis. Parce que le type qui prend soin des apparences, l'homme d'affaires qui peut susciter l'intérêt personnel, je sais que c'est le type qui réussit. Être aimé, c'est tout le secret. Ah, ça marchait du tonnerre. Très, très, très fort. Mais je voulais rentrer à la maison.
Tout le monde va venir à ce match. Alors, tu as vendu.
Oh, j'ai dû faire dans les 500 à Providence et 700
non,
à Boston.
Attends un peu. J'ai du papier, là. Alors, ça te fait une commission de 200. Oh, mon Dieu! Tu as gagné 212 $.
Je n'ai pas encore compté, mais...
Combien as-tu fait?
Oh, à peu près 180 à
Providence. Alors, 180
Non, ça doit monter à 200 $ de chiffre.
200 $
Enfin, il y avait trois boutiques fermées pour inventaire à Boston. Sinon, je battais mon record.
Bon, ça fait 70 $ et des poussières, c'est pas mal du tout.
Alors, combien doit-on? Oh, bon sang, non, je n'y arriverai jamais. Je ne sais pas ce que je vais faire.
Mais la semaine prochaine sera meilleure.
Ah oui, je ferai un malheur. Je vais aller à Hartford. On m'aime à Hartford, c'est vrai. Tu sais ce qui ne va pas, Linda ? Il me semble que les clients n'accrochent pas avec moi.
Oh, ne dis pas de bêtises.
Quand j'arrive, je vois bien qu'on se moque de moi.
Pourquoi se moquerait-il de toi, hein ? Qu'est-ce que tu racontes ?
Je peux pas t'expliquer, mais je vois bien que je passe inaperçu.
Je t'en prie, tu fais de 60 à 100 $ par semaine.
Mais j'y passe des 10 et 12 heures par jour. Les autres, je sais pas pourquoi, ça leur est plus facile. Je ne suis pas sérieux.
Voyons, chérie.
Je suis petit. J'ai vraiment une allure ridicule. Je ne te l'ai jamais raconté, mais à Noël, l'an passé, pendant une visite chez Stewart, j'ai croisé un collègue que je connais. En arrivant près de lui, je l'ai entendu murmurer que je ressemblais à une crevette. Et alors je l'ai frappé. Je lui ai mis sur la gueule. Oui, pas question d'accepter ces choses-là. Je n'accepte pas ces choses-là.
Alors, on voit bien que... que ce Willy Loman, il a fait d'énormes efforts pour construire une vie de famille avec ses deux fils, avec sa femme, une maison, un réfrigérateur, une voiture, et que bon, qui s'est construit socialement et qu'il est dans cette ce besoin de représentation parce qu'il est vendeur. Hein, et que un vendeur tout va bien et puis mais il est aussi en besoin de représentation vis-à-vis de ses fils, vis-à-vis de sa femme, et puis il les élève dans cette idée de, cette espèce de culte du sport, et on le verra plus tard dans le film, l'espèce de culte de la virilité, l'intellectuel est mal vu, c'est très Amérique profonde ça, le voisin intellectuel est pas très bien vu, et puis ce qui est important c'est d'être reconnu, hein, d'être reconnu partout où on va, donc c'est un grand vendeur, d'ailleurs c'est son truc, et il peut garer sa voiture partout, voilà, et donc il y a cette espèce d'instant de bonheur où il est avec ses fils, où il fait partager à ses fils sa réussite, hein. Et puis ensuite il y a sa femme qui fait des comptes. Et là, on voit Willy Loman un peu plus hésitant, qui recule, oui, 500, donc de commission, ça fait 100, mais il y avait des magasins fermés, tu comprends, chérie. Donc, bon, au total, j'arrive à 170 de chiffre d'affaires hebdomadaire. Il est payé à la commission, hein, sur la chaîne d'affaires. C'est pas si mal, lui dit sa femme. On comprend que c'est toujours un peu juste. Et puis, il dit, j'y arriverai jamais, vraiment, mais la semaine prochaine, je ferai beaucoup mieux. Et là, on a vraiment le vendeur dans toute sa souffrance et dans toute sa difficulté, surtout à la commission, hein, c'est une belle arnaque, ils diront les vendeurs. Bon, c'est ça qui est intéressant, c'est que il a quelqu'un quand même pour parler, c'est qu'il peut parler à sa femme, il peut dire à sa femme, je me sens petit, je me sens ridicule, je sens bien que les gens se moquent de moi. Alors c'est lui qui ressent ça, on n'est pas du tout, il n'est pas du tout certain que autour de lui on se moque de lui, mais il souffre déjà de son physique, il y a une carence, une blessure narcissique importante qu'il doit compenser en étant socialement reconnu. Et on peut imaginer dans certains couples. Parce que finalement, là, ça se passe pas si mal. Il a une femme à qui il peut raconter. Mais on peut s'imaginer, dans certains couples, le pater familias rentrant, devant continuer à jouer le jeu social qu'il a joué dans son métier. Tout va bien, j'assure le revenu de ma famille, et obligé de garder un masque vis-à-vis de sa femme en disant tout va bien, j'assure, alors qu'intérieurement il sent que les choses sont instables, il souffre de son travail. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que son travail est nerveusement très difficile, c'est-à-dire que c'est un métier de contact, et en plus un métier où il doit avoir un résultat, il est complètement dépendant du client, et tout se joue aussi sur la séduction et sur l'apparence, et intérieurement c'est quelque chose sur la durée dont on peut énormément souffrir. Et donc voilà, donc il y a le rêve, la réussite sociale, le statut social, et puis concrètement, ce qu'il est intérieurement et ce dont il souffre intérieurement.
Je voudrais rajouter quelque chose au propos de sa femme, justement. Il faut bien voir qu'on est dans le cadre d'une famille un petit peu à l'ancienne, enfin à l'époque justement de la reconstruction. C'est-à-dire que c'est l'homme qui ramène l'argent au foyer, et la femme qui tient la maison, qui tient la lessive. Il y a une scène même d'ailleurs de linge, enfin. Mais bien sûr, la femme n'a pas son propre revenu. Hein.
Mais c'est elle qui tient les comptes. Mais il y a un truc quand même que je voulais juste dire, c'est sur l'image qu'on peut avoir de soi quand on est dans sa situation là de père, et en fait des mensonges qu'on se fait à soi-même et qu'on fait aux autres. C'est-à-dire qu'il est là dans les souvenirs de sa jeunesse avec ses enfants, à dire que tout va très bien, que tout va pour le mieux, et qu'après effectivement on se rend compte qu'il peut, même avec ce qu'il a fait dans la semaine, il peut pas rembourser la machine à laver ou je sais pas le frigidaire. Et en fait, il est dans un déni, en fait, il peut effectivement raconter à sa femme qu'on se moque de lui, qu'il se sent tout petit. Et donc là, on est tout à fait dans l'image de la reconnaissance de soi, cette méfiance qu'on a aussi par rapport à ses concurrents, par rapport à ses collègues qui peuvent être moqueurs, qui sont peut-être meilleurs aussi. Hein. Là, c'est intéressant.
Est-ce que je regrette de ne pas être allé en Alaska avec mon frère Ben, la fois où Ben... Ce type-là, c'était un génie, ce type-là, c'était la réussite incarnée. Mais moi, j'ai refusé de partir malgré tout.
Écoute, papa, ça ne sert à rien de...
Ah, tais-toi ! Voilà un homme qui n'avait rien et qui possède des mines de diamants.
J'espère que tu me diras ce qu'il a
mais
fait.
Mais ça n'a rien de mystérieux. Ben savait ce qu'il voulait, voilà tout. Il est parti dans la jungle, a réapparu à l'âge de 21 ans, et il était riche. Le monde est une huître, mais pour la gober, faut pas s'endormir.
Alors, un personnage fait... irruption dans la vie de Willy Loman. Alors, il faut préciser qu'il fait irruption dans les flashbacks qu'a Willy Loman, puisque Willy Loman, tourné vers le passé, se rappelle sa vie de famille, se rappelle le temps où ses enfants étaient plus jeunes et où il avait une vraie, où il les éduquait. Et donc, son frère, qu'il ne connaît à peine, vient lui rendre visite. Alors, on ne sait pas très bien si c'est... Jusqu'au bout, on ne saura pas si c'est un frère qui est réel, si c'est un frère qui est mythique, si c'est... quelque chose qui s'est construit, mais ce qui est sûr, c'est que pour lui, c'est la référence, puisque on apprend que Willy Loman ne connaît pas son père, ou pratiquement pas, et la référence de quelqu'un qui réussit, ou qui a réussi, et donc on apprend un peu de l'histoire de Loman, de son père, qui était un pionnier de la conquête de l'Ouest, qui était, et aussi qui était un inventeur, qui savait tirer profit de ses inventions, et là, on a vraiment enfin, le rêve américain tel qu'il est à la fin du 19e, peut-être au début du 20e, où il y a à la fois donc la conquête de l'Ouest, on l'a dit, la mise en valeur des terres, et aussi le culte de l'invention, du travail manuel et de l'invention, et de la commercialisation de l'invention pour réussir. Et tout ça fait un espèce de maelstrom de référence que Willy Loman a eu en permanence dans ses principes d'éducation, et qu'il essaye de transmettre à ses fils. Et si ses fils sont malhonnêtes, bah, un petit peu malhonnêtes, c'est pas grave, puisqu'ils doivent. C'est comme ça qu'on réussit. La bourse est plein de brigands. Il faut être dans la concurrence, il faut être plus malin que les autres pour grimper, il faut être un homme. Voilà, il y a toutes ces valeurs éducatives qui sont transmises, ce culte de la réussite, d'un coup, qui peut survenir d'un coup. En se disant, moi, peut-être que j'aurais dû faire comme ça, j'ai peut-être raté l'opportunité.
Alors, c'est toi, William?
Oh, Ben. Ça fait si longtemps que j'attendais. Quelle est la réponse? Comment as-tu fait?
Oh, c'est une longue histoire.
C'est Ben?
Très heureux, ma chère.
Mais où étiez-vous passé depuis tant d'années?
Oui, papa, c'est en le suivant que tu as commencé.
De quoi te rappelles-tu?
Oh, j'étais encore bébé, je crois que j'avais 3 ou 4 ans, non?
3 ans, 11 mois.
J'ai une mémoire.
J'ai de nombreuses entreprises, William, mais je n'ai jamais tenu le livre.
Au chariot, où ça déjà? Au Nebraska?
Non, c'était le Dakota du Sud. Je t'avais donné un bouquet.
Je me rappelle qu'un jour, tu avais pris la route.
J'allais chercher papa en Alaska.
Où est-il?
Mais dans le temps, je connaissais mal la géographie, mon vieux, et j'ai découvert au bout de quelques jours que j'allais au Sud. Et en fait, d'Alaska, j'ai fini en Afrique.
En Afrique?
La côte de l'or!
Ah non, plutôt les diamants.
Les diamants?
Exactement, ma chère, mais je n'ai que quelques minutes.
Attends, hé, les garçons, venez, venez, venez. Écoutez ça, c'est votre oncle Ben, un grand homme, Ben. Tu vas leur parler.
Moi, mes enfants, j'avais 17 ans quand j'ai pénétré dans la jungle. J'en suis ressorti à 21 ans, et par Dieu, j'étais devenu riche.
Vous voyez maintenant pourquoi je vous parle comme je le fais. Tout est possible.
Il faut que je parte pour Ketchikan, j'y ai un rendez-vous.
Attends, Ben, parle de papa à mes braves garçons. Je veux leur apprendre de qui ils sont issus. Moi, ce dont je me souviens, c'est d'un homme avec une grande barbe et moi sur les genoux de maman près du feu. Et il faisait de la musique.
Ah oui, il jouait de la flûte.
La flûte, c'est vrai.
Notre père était un grand homme, d'un courage surhumain. Nous sommes partis de Boston, entassés tous ensemble dans un chariot. Il a pris les rênes et conduit la famille à travers tout le pays. Vers l'Ohio, le Michigan, l'Illinois et tout l'ouest des États-Unis. À chaque étape, il vendait aux gens les flûtes qu'il fabriquait en chemin. Grand inventeur, notre père, de la plus petite idée, bien exploité, il pouvait tirer plus d'argent que vous n'en gagnerez dans toute votre vie.
Non, Ben, je les élève dans le même esprit. Je veux qu'ils se fassent aimer partout.
Oui, alors pour moi, je pense que le frère existe réellement, ou tout au moins a existé réellement. Mais pour moi, il existe. Mais alors, il existe. Il existe dans ses pensées, sur le... Donc, parce qu'il se remémore le passé. Et à chaque coup, on s'aperçoit qu'il en rajoute une couche. C'est-à-dire qu'il la déforme, cette vérité. Hein, c'était les bien meilleurs, ils étaient bien plus beaux, ils étaient bien plus forts, mais lui aussi il allait construire quelque chose, il a quelques petites inquiétudes pour la construction de ses enfants, mais pourvu que ça soit des hommes, c'est comme ça que je reçois le truc, quoi, hein.
Moi, je pense que ce personnage dans ce film est la colonne vertébrale de ses fantasmes sur son passé. Et maintient, c'est, en fait, c'est, on a toujours besoin, quand on a des hallucinations, enfin on va dire ça comme ça pour être rapide, On a toujours besoin peut-être d'un personnage qui soit un peu la colonne, hein, qui revienne souvent pour donner un petit peu du café à moudre à ses fantasmes ou ses souvenirs. Enfin, ce qui est important, c'est qu'il lui demande des nouvelles de sa famille et que le jeune frère réponde « Mes enfants, je vais en faire des hommes. » Ça veut dire quoi, faire des hommes? Ils seront tout seuls, a priori. Donc,
Oui, mais on retrouve encore une fois la culture américaine profonde, c'est-à-dire la réussite. La réussite, ça passe aussi par le fait d'être un homme et de ne pas pleurer, d'être bon en sport, d'être aimé par les femmes, etc., etc.
Je n'ai jamais prétendu que c'était un grand bonhomme. Willie Loman n'a pas su gagner des millions, il n'a pas sa photo en première page et peut-être qu'il n'a jamais rien fait de magnifique. Mais c'est quand même un homme. Et il lui arrive quelque chose d'épouvantable. C'est un homme qu'il faudra traiter avec les égards qu'il mérite. Toi, tu l'estimes gâteux. Tu n'es pas le seul à le croire dérangé. Mais ce n'est pas sorcier de comprendre ce qu'il amoindrit. On l'a exploité jusqu'au trognon.
C'est sûr.
Les plus petits employés souffrent de la fatigue autant que les plus grands. Il trime pour sa boîte. Ça fera 36 ans en mars qu'il s'épuise à conquérir de nouveaux marchés pour leurs produits. Et maintenant qu'il est vieux, on lui supprime son fixe. Depuis 5 semaines, il se retrouve à la commission comme le premier débutant venu. Il se tape des milliers de kilomètres. Il arrive chez lui et il n'y a personne pour lui parler ni lui offrir un peu d'amour. Que pensez-vous qu'il se passe dans l'esprit d'un homme qui a tenu le volant pendant des kilomètres et qui rentre à la maison vidé sans avoir gagné un centime? Bien sûr qu'il se met à parler tout seul. Et il y a bien de quoi. Il faut qu'il aille trouver Charlotte toutes les semaines pour lui emprunter $50 pour bien me persuader, moi, qu'il est payé. Est-ce que ça durera longtemps, d'après toi? Et toi, tu viens me dire qu'il n'a aucun caractère? Un homme qui a travaillé pour vous deux tous les jours de sa vie et personne ne lui a remis de décoration. C'est ça, sa récompense à 63 ans.
Alors on a la première scène de vérité du film, à peu près au bout de 40 minutes, où on comprend la situation de Willie Loman, qui n'est plus qu'un vendeur payé à la commission après 34 années de bons et loyaux services, c'est-à-dire revenu au niveau du débutant, alors qu'il a de plus en plus de difficultés à faire son métier. Et dans l'explication qu'a la mère avec ses deux fils qui sont revenus, on comprend mieux la projection qu'il a fait ou qu'il fait actuellement sur ses deux fils, c'est-à-dire sur l'échec de ses deux garçons, qui considèrent que le premier n'est pas un minable, mais disons qu'il n'ira de toute façon pas très loin, et puis que son salaire est tout à fait ridicule, enfin qu'il ne fera jamais une grande chose. Et puis le deuxième, dans lequel il plaçait tous ses espoirs, lui est totalement au point mort. Et pour c'est son image à lui de vendeur, ou son image sociale qui est complètement détruite à travers cette impossibilité non seulement de construire sa vie, de gagner sa vie correctement à la fin de sa vie, mais en plus de réaliser de grandes choses après 34 années à avoir couru les routes.
Voilà, alors pour moi, il n'y a pas de commentaire à faire, c'est-à-dire que pour l'instant, tout ce que l'on a vu permettait de voir le climat un petit peu, de l'ambiance du film, dans quoi présenter les personnages, et puis là, elle dit tout. Tout le sujet, on ne sait pas encore comment ça va se terminer, mais tout le problème, tout le sujet du film est dans cette scène.
Oui, alors c'est intéressant de penser quand même que cette personne n'est pas à la retraite. Hein, et que, en principe, les caisses de retraite ont été mises en place à cette époque dans tous les pays occidentaux, mais pour lui, il n'en est pas question. Et d'ailleurs, on apprendra par la suite que sa retraite, c'est la maison qu'il a payée, en fait, qui va lui permettre de sortir d'affaires ou sortir sa femme d'affaires. Ce sera pour le coup une charge en moins, des traites en moins à payer. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'ascension sociale. Alors ça, c'est vrai que ça pose un problème, parce qu'on a le sentiment dans les années disons 45-50 que bon, l'économie américaine a tourné à plein et qu'il y a ce décollage. Hein. Alors là, pour lui, c'est trop tard. Il a 63 ans, il a fait toute sa carrière dans l'entre-deux-guerres et notamment pendant la Grande Dépression. Donc il a dû se battre férocement. Il est passé à travers la Grande Dépression. Et maintenant que l'économie américaine change, lui, bah, il est plus bon à rien. Parce que peut-être qu'il ne sait pas faire autre chose que ce qu'il a toujours fait. Et donc il est dépassé par son âge en fait. Hein, voilà. Il est dans l'ancien système aussi du métier, des vieux métiers peut-être, hein, des métiers de la vente. Et du fait qu'il n'a pas réussi à être son propre patron, qu'il n'a pas réussi à changer de statut, à créer sa propre affaire, selon ses critères à lui, qu'il est resté un employé.
Ça m'ennuie de te dire ça. Dans le milieu des affaires, les gens pensent que t'es fou.
Mais je les emmerde, moi.
C'est vrai, tu les emmerdes, mais en douce.
Je me fous de ce qu'ils pensent. Ce sont les mêmes qui se foutent de papa depuis des années. Et tu sais pourquoi? Parce que nous n'avons rien à faire dans cet asile de fous. On n'a rien à faire en ville. On devrait faire du mortier quelque part en plein air. Les menuisiers ont le droit de siffler, eux.
Ton grand-père déjà valait bien plus qu'un menuisier. Tu devrais grandir un peu. Et on peut savoir qui me croit fou, hein?
Papa, qu'est-ce que tu vas chercher là? Je l'ai pas dit du tout comme
ça. Retard dans l'Ouest pour être menuisier ou cow-boy et amuse-toi.
Oui,
bien.
Il a seulement...
J'ai entendu ce qu'il a dit.
Papa, tu veux bien...
On se moque de moi, hein? Va chez Philens ou chez Hub, va chez Slattery à Boston et lance un nom, Willy Loman, tu verras qu'on me connaît partout.
D'accord, papa.
Partout.
D'accord.
Allez, bonne nuit, bonne nuit.
Chérie, il est décidé à changer.
Si tu te fatigues de traîner sans rien foutre demain matin, peindons le plafond que j'ai refait au salon.
Hmm? Non, je pars très tôt demain matin.
Il va aller voir Bill Oliver, papa.
Oliver? Pourquoi?
Ah, tu sais, il arrêtait pas de dire qu'il voulait m'aider et je songe à m'établir, alors j'ai pensé peut-être qu'il pourrait me financer.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Ne l'interromps pas, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux là-dedans? Plus de 20 personnes à New York attendent de le financer. Sport, c'est ça?
Ouais, je crois, oui, enfin, ce serait pas mal.
Il croit que ce serait pas mal. L'article de sport s'est fait tout spécialement pour toi. Combien est-ce qu'il t'offre?
J'en sais rien, papa, je le vois
alors
demain.
Alors tu racontes n'importe quoi.
Tout ce que j'ai dit, c'est que je pensais le voir et rien de plus.
Tu seras toujours un rigolo.
Ah, bon Dieu, non.
Mais ne jure pas sous mon toit.
Je te trouve très délicat, soudain.
Tu me permets sur un autre ton.
Doucement, papa, ne te
fâche pas, reviens.
Attends, j'ai une idée pratique. Écoute, Biff, discutons cette affaire, discutons sérieusement.
Non, Biff.
Vas-y, sérieusement. Tu demandes pas un boulot de gamin, il s'agit d'un prêt. Poli, laconique, raffiné, sérieux. Les gens aiment rigoler, mais on ne prête rien aux blagueurs.
J'essaierai de mon côté, je peux y arriver.
Oh, je vois de grandes choses pour vous, les enfants, et même la fin des ennuis. Mais rappelez-vous, commencez très haut. Demandez au moins 15 000. Combien penses-tu lui demander?
Oh,
écoutez-le, mais tu hésites comme un gamin. On ne peut pas emprunter 15 000 dollars en parlant comme un écolier.
Mais
ne sois pas
10 000,
si modeste, je te dis d'attaquer très haut. Tu y vas avec un bon sourire, fais celui qui n'a pas de soucis et démarre avec une plaisanterie qui détendra l'interlocuteur. Rappelle-toi, ce n'est pas ce qu'on dit, mais l'art de le dire. Parce que la personnalité, c'est le moyen d'arriver à tout.
Oliver avait une très grande...
Tu vas te taire, toi.
Alors c'est un huis clos, hein, familial. Tout se passe entre le père, sa femme et ses deux enfants. Et c'est quand même intéressant parce que on sent dans cette scène, d'abord il y a un modèle traditionnel familial, c'est-à-dire que la femme ne doit pas parler pendant qu'on parle affaires. Voilà, c'est l'élément qui est écarté dès qu'on parle des choses sérieuses. Et puis il y a aussi le fait que le père a perdu son autorité parce que sa situation sociale s'est tellement dégradée et en fait il l'a perdue depuis longtemps. Donc et aussi il s'adresse à des hommes aussi, mais tout de même l'image qui renvoie à ses fils est tellement terrible. Alors qu'à ce jour, c'est encore lui qui est une des principales sources de revenus du foyer, que progressivement, il a un sentiment complet d'échec, d'autant plus fort qu'il a l'impression que ses fils ne prendront pas la suite. Et on sent en fait dans le dialogue et dans la projection qu'il a avec son fils qu'il est prisonnier effectivement de l'image qu'il aimerait avoir de son fils qui va continuer, qui va faire mieux, qui va réussir là où lui il a échoué, parce que c'est ça en fait, hein, la transmission. ça pourrait être une critique du matérialisme de nos sociétés ou du capitalisme ramené à un petit au noyau familial, c'est-à-dire que finalement le fils doit poursuivre l'œuvre du père, doit augmenter le capital, doit réussir mieux que son fils. Et donc là il y a cet échec patent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le fils lui-même est prisonnier de ce que lui renvoie son père, des exigences de son père, et mutuellement, en fait, ils se tiennent.
Ben ça y est, c'est le grand rêve qui est reparti, c'est-à-dire qu'après quelques étincelles, c'est le grand espoir, ça y est, c'est le fils et l'association des deux fils même, réunis, qui vont faire redémarrer le succès, la gloire et l'argent.
Je te croyais parti pour Boston.
C'est précisément ce dont je voulais te parler. Tu as une minute.
Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fiches ici? Ne me dis pas que tu as encore craqué.
Ah non. Oh que non.
Ah, tant mieux. Je t'assure que tu me fais peur.
Non.
Oui, mais alors, qu'est-ce qu'il y a?
Parlons franchement. Je viens de prendre la décision d'arrêter de voyager. Je ne voyagerai plus.
Arrêter de voyager? Mais qu'est-ce que tu vas faire?
Tu te rappelles la petite soirée que tu as donnée pour Noël? Tu as dit que tu essaierais de me mettre quelque part ici, en ville.
Où? Ici?
Bien sûr.
Ah oui, je me rappelle, oui. Ben, j'ai rien trouvé en définitive, oui.
Je vais te dire, Howard, les enfants sont devenus des hommes, ça tu le sais. Je n'ai plus les besoins d'autrefois. Si je faisais, je me contenterais d'assez peu. 65 par semaine, je serais comblé.
Oui, mais Willy, c'est...
Mais attends que je t'explique au moins. Je te parle en confiance. Mais ça reste entre nous, tu sais. Je me sens fatigué.
Ah, oui. Ah ben, c'est pas difficile à comprendre. Mais tu es un homme de terrain et nos affaires se font comme ça. Nous n'avons qu'une demi-douzaine d'employés. Si j'avais eu un poste, tu penses bien que je te l'aurais donné tout de suite. Mais le fait est qu'il n'y a rien...
Oh, je ne suis pas gourmand. Va pour 50 par semaine.
Mais où veux-tu que je te mette?
La question n'est pas de savoir si je peux vendre, n'est-ce pas?
Non, mais on peut se soucier de mettre chacun à sa place.
Justement, Willy... Si seulement j'avais 40 dollars par semaine, ça irait...
Écoute,
seulement 40...
Mais enfin, je ne peux pas faire l'impossible.
L'année de la nomination de Smith, ton père...
Non, écoute, j'ai des gens à voir.
Je suis en train de te parler de ton père et des promesses qui ont été faites devant ce bureau. Tu ne peux pas te contenter de dire que tu vas voir des gens. J'ai mis 35 ans de ma vie dans cette maison et je ne peux pas payer l'assureur. Alors je suis une orange pressée et tu jettes la peau. Un homme ne se jette pas comme un fruit.
Alors là, il se retrouve devant son nouveau patron, qui est en fait le fils de celui qui l'a embauché, hein, puisque c'est une boîte où on se succède, comme dans beaucoup de boîtes, en fait, de père en fils. Hein. Il se retrouve donc devant son nouveau patron, et là, il fait ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire qu'il avoue sa faiblesse, il avoue sa fatigue. Et ce n'est pas le petit garçon qu'il a connu et qu'il a mis et qu'il a formé, même si j'ai bien compris. C'est le nouveau patron. Voilà.
Alors oui, on a le sentiment que tout est dit. Je suis une orange pressée. Je jette la peau. Bon, en fait, c'est une scène de licenciement classique. On garde. Probablement Woody Loman parce que il est vieux et que on attend peut-être de le mettre à la retraite. On a quand même eu la cruauté de lui retirer son fixe. C'est-à-dire qu'en fait il y a une logique assez simple, c'est que tu es employé, tu dois justifier de ce que tu coûtes à la société en fait. C'est valable pour les salariés aujourd'hui, ils doivent justifier de leur salaire, qu'est-ce qu'ils rapportent réellement à la société. Donc Willy Loman, il rapporte ses commissions, c'est tout. Enfin, il rapporte des affaires et il est payé sur ses commissions comme un débutant. Donc il n'y a pas de position acquise. Et puis on le garde parce qu'il est vieux, parce que c'est un historique de la société. Et puisqu'il a eu le malheur d'avoir des prétentions et des exigences et de mettre son patron en devoir d'y répondre... finalement il est plus très utile à la société et peut-être qu'il ne l'était plus depuis longtemps d'ailleurs. C'est ce que semble suggérer le film, enfin la scène.
C'est-à-dire qu'en fait, oui, il semble que ça faisait un bout de temps qu'il n'était plus utile, tout au moins pas à la hauteur financière de ce qu'attendait la société. Mais tant qu'il ne revendiquait pas une place pour tenir compte de son usure, de sa de sa fatigue, on le laissait. Et à partir du moment où il revendique quelque chose, alors là...
Oui, c'est ça l'idée. C'est que tant qu'il ne coûte rien, puisqu'il est payé à la commission, il peut rester. Il ne coûte rien à la société. Il est payé à ce qu'il rapporte. À partir du moment où il a une charge pour la société, qu'il y ait des liens affectifs. Alors, il y a le mensonge, hein, des liens affectifs dans l'entreprise, de l'entreprise paternaliste aussi. Parce que finalement, voilà, l'entreprise paternaliste, à un moment donné, elle fait comme toutes les entreprises.
Tiens, voilà des sous. $50. J'ai le comptable là-dedans.
Charlie, écoute, j'ai ma prime d'assurance à payer. Si tu pouvais... c'est $110 qu'il faudrait que... Je pourrais les tirer à la banque, mais Linda le
sait. Assieds-toi.
Tu sais, je tiens précisément les comptes des avances, tu sais bien.
Écoute-moi.
Je vais te rembourser tout ça.
Oui,
je voulais te dire que je suis très reconnaissant.
Mais qu'est-ce que tu as dans le crâne, je me le demande.
Eh bien, simplement...
Je t'ai offert un emploi. Une semaine à $50 sans avoir à te déplacer.
J'en ai déjà.
Sans salaire. Mais si tu ne gagnes pas d'argent, ce n'est pas un emploi. Écoute-moi, mon vieux. Maintenant, ça suffit. Je ne suis pas un génie, mais je sais reconnaître une insulte. Pourquoi refuses-tu mon offre?
Qu'est-ce qui te promet, puisque je te dis que j'ai un emploi?
Et pourquoi viens-tu ici me voir chaque semaine?
Si tu ne veux pas me voir ici, j'ai...
J'ai un bon emploi à t'offrir.
Je ne veux pas de ton emploi.
Mais est-ce que tu grandiras un jour?
Espèce de gros imbécile! Si tu t'avises de me dire ça encore une fois, je te casse la gueule et je me fous... T'es prévenu!
Oui, alors Willy Loman est viré et donc déboule chez son voisin, qui est son seul ami, pour lui demander de l'argent, ce qui est habituel. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'on s'aperçoit que Willy Loman a quand même un entourage sur qui il peut compter. Et on a même envie de dire un entourage en béton. Une femme à qui il peut pratiquement tout dire, un voisin qui se propose de l'embaucher et qui lui donne de l'argent. Et donc, il aurait tout pour être heureux. Mais il refuse de descendre dans l'estime de sa femme en lui avouant qu'il a l'impression d'être un raté, et il refuse d'être embauché par son ami. Il y a à la fois de l'orgueil, et puis il y a le voilà, qu'est-ce qui fait un homme? Être un homme, c'est gagner par soi-même sa vie, c'est se faire soi-même. Il y a toutes ces valeurs qui font qu'il ne peut pas accepter le geste de solidarité de son voisin, qui est aussi son concurrent au quotidien, celui son voisin, ben son fils a réussi, son fils est avocat, voilà, donc il va refuser, et puis il va dire à la fin, finalement on découvre, à la fin de sa vie, on découvre qu'on vaut plus mort que vivant, ce qui est la phrase du film peut-être.
Je voudrais te parler.
Alors vas-y. Tu as vu Oliver?
Oui, je l'ai vu, et je voudrais dire un certain nombre de choses à papa, et tu vas m'aider.
Il a accepté?
Tu veux rire? Tu délires, tu t'en rends compte?
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai fait une chose terrible aujourd'hui, Happy. J'ai vécu la journée la plus étrange de toute ma vie. Je t'assure, je me sens hébété.
Il n'a pas voulu te recevoir?
J'ai passé 6 heures à attendre qu'il me voie. Je n'arrêtais pas de répéter mon nom. J'ai essayé de faire du gringue à la secrétaire dans l'espoir qu'elle m'introduirait. Tu parles.
Tu as perdu l'assurance que tu avais, Biff. Il se rappelait bien de toi, non?
Et finalement, vers 5 heures, il s'est amené.
Hein?
Il n'avait pas la moindre idée de qui j'étais.
Mais est-ce que tu lui as parlé de mon idée?
Il est passé sans me voir. Ça a duré peut-être une minute en tout. J'étais si furieux, j'aurais pu tout casser. Mais où est-ce qu'on est allé pêcher l'idée que j'ai été représentant chez lui? J'avais fini par en être persuadé aussi, et puis il est sorti et il m'a regardé, et je me suis rendu compte du ridicule mensonge qu'est ma vie. Oui, depuis 15 ans, nous avons rêvé sans arrêt. Je n'étais que magasinier. Et je te demande de m'aider à le dire à papa.
Mais c'est idiot, pourquoi?
Pour lui faire comprendre que je suis pas le genre de mec auquel on prête une somme pareille. Enfin quoi, il est persuadé que je lui en veux depuis des années. Ça le ronge.
C'est vrai, il faut le rassurer par une bonne nouvelle.
Papa,
dis-lui que tu as un déjeuner avec Oliver demain.
Et je fais quoi demain?
Écoute.
Alors, on se rapproche du dénouement lentement, mais sûrement, puisque non seulement Willy Loman s'est fait virer, mais son fils n'a pas été reçu chez Oliver. Il devait aller chez Oliver pour monter une affaire... être embauché, demander une avance, etc., et être pris sur le champ. Et évidemment, Oliver, qui est le président directeur général d'un grand magasin, devait absolument se souvenir de Biff, qui était si extraordinaire quand il était jeune. Et coup de drame, Oliver ne se souvient de même pas de qui est Biff, voilà, même en le voyant. Voilà. Et là, il se passe un phénomène curieux, c'est qu'en plus, Biff, de dépit, vole un stylo, un très beau stylo qu'il y a sur le bureau. Donc voilà, il essaye de raconter ça à son père, qui ne veut évidemment pas l'écouter, qui s'en moque, et dont on sent que plus il échoue et plus il s'enfonce dans l'échec de sa vie, et plus il exige de son fils cadet, d'ailleurs, qui n'est même pas son fils aîné, son fils cadet, de réussir absolument, d'être le meilleur, de faire carrière, etc., etc. Mais là, le fantasme s'écroule en fait pour Biff, parce que Biff se rend compte peut-être qu'il a vécu sur une image un peu idéalisée de lui-même, de quelqu'un d'extraordinaire que tout le monde autour connaissait, appréciait, que les portes allaient s'ouvrir grandes pour lui.
En fait, au cours de cette scène, on s'enfonce encore un petit peu plus dans le drame. On en découvre de plus en plus sur le côté mensonger de toute cette vie. Le fils qui dit mais ouvre les yeux, j'ai jamais été un partenaire, il pouvait pas me recevoir et pas me reconnaître, j'étais le magasinier. Et puis il a fait ce geste stupide un peu comme par réflexe. On l'apprendra plus tard, en fait, il est devenu un voleur. Il piquait les ballons pour s'entraîner parce que le motif était de s'entraîner. Donc ça, les parents le savaient, bien entendu, mais l'excusaient en disant « mais non, c'est un emprunt ». Enfin, c'est. Et puis, on apprendra par la suite qu'en fin de compte, pendant son exil de 6 ou 7 ans, pour construire sa vie ailleurs, en réalité, il a été obligé de faire de la prison parce qu'il a été piqué également à faire des petits vols. Hein. Et puis, le coup du stylo, c'est pas pour le stylo, c'est presque un réflexe, et un réflexe contre cette société, peut-être.
Le kleptomane est un jaloux, par définition. Quand il pique, il fait un acte de prédation, mais symbolique, parce qu'il ne prend que des petites choses. Et donc Biff, semble-t-il, de dépit d'avoir raté son rendez-vous, vole le stylo de la personne établie et bien installée qui aurait dû le recevoir, lui, le pauvre demandeur d'emploi.
30 centimes. Oh, quelle proposition formidable. Il le faut parce qu'elle a souffert, Ben. La pauvre a souffert. Un homme ne peut s'en retourner comme il est venu. Il faut qu'un homme produise quelque chose dans sa vie. Oh non. Si tu considères... Non, inutile de répondre trop vite. N'oublie pas, il y a la garantie de 20 000 dollars là-dedans. C'est pas mal, hein? Oh Ben, je veux que tu fasses le tour de cette idée avec moi. Je n'ai personne à qui parler. Et la pauvre a souffert. Tu m'entends?
Quelle est la proposition?
20 000 dollars versés rubis sur l'ongle, garantie assurée. Tu saisis?
Ne te fais pas avoir, ils peuvent refuser ta police d'assurance.
Ah, ils n'auront pas le front de refuser. J'ai trémé toute mon existence pour régler toutes les traites et eux paieraient pas. Non, c'est impensable.
On dit aussi que c'est un lâche, William.
Pourquoi? Ce serait plus courageux de rester ici jusqu'à la fin de mes jours sans aboutir à rien, hein?
Ça n'est pas faux. Ouais. Et 20 000 dollars, c'est une somme que l'on peut avoir en main, c'est vrai.
C'est toute la beauté de la chose. Je vois ça comme un diamant luisant dans le noir et que je peux prendre et toucher dans la main. Ah, ce ne serait pas comme un rendez-vous.
Ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, il refuse en fait de... Cet homme refuse de... On dirait de décroître ou de diminuer. C'est-à-dire qu'il a travaillé toute sa vie, même en n'étant pas payé à la fin. On travaille sans salaire, mais il préférait ça plutôt que d'être mis au rencard, d'être bon à rien, de rester chez lui, de ne jamais rien faire, puisqu'il était, pour lui, il avait une mission, c'était de faire quelque chose dans la vie, donc de toucher la timbale. Et si c'est pas lui qui le fait, ce sera son fils qui aurait dû le faire. Son fils ne pouvant pas le faire, il faut. Il y a aussi ça, le besoin de prouver à son fils qu'il a pu faire une grande chose, qu'il peut faire une grande chose, et donc le prouver que sa mort est utile à la collectivité. C'est la dernière chose qui est utile à toute la famille. Après avoir nourri toute sa famille, en se suicidant, il lui permet encore d'être à l'aise en touchant de l'argent de l'assurance. Et en plus, il y aura un enterrement. C'est une façon d'être aimé aussi, hein, de voir tout le monde, toutes les voitures qui viendront à l'enterrement, voir comme il était connu, comment meurt un représentant de commerce qui est connu partout et que tout le monde viendra voir mourir. Voilà, c'est comme ça qu'il voit les choses. Mais il y a une chose qu'il retient quand même, c'est que son fils le traitera de lâche, malgré tout, et de faible. Et ça, ça lui pose problème jusqu'à peut-être la deuxième scène du dénouement de ce film.
Finissons-en, je m'en vais et puis je ne vous écrirai plus.
Je crois que c'est mieux, Willy. Ça ne sert à rien de s'entêter, vous ne vous entendez pas.
Tu me souhaites bonne chance, alors?
Allez, serre-lui la main.
Il n'y a aucune raison de parler du stylo que tu as pris sur son bureau.
Attends. Tu ne veux à aucun prix apprendre à me voir tel que je suis, alors inutile de discuter encore. Papa, il faut m'oublier, c'est tout. Hein, on serre la main?
Non, pas la mienne.
J'espérais ne pas m'en aller comme ça.
Mais tu vas t'en aller comme tu veux. Puisses-tu retirer en enfer si tu t'en vas maintenant?
Qu'est-ce que tu attends exactement de moi?
Je veux que tu saches dans les trains, sur les montagnes et dans les vallées, partout où tu iras, que tu as gâché ta propre vie par rancune.
Non. Non.
Par rancune! C'est par rancune, je veux que tu le saches. C'est la rancune.
Arrête.
Qui t'aura perdu. Et je veux que quand tu pourriras quelque part au bord d'une route, je veux que tu te rappelles et que tu ne viennes pas me le reprocher.
Papa, je ne te le reproche pas.
Je ne veux pas être responsable de ça.
Papa, c'est ce que je me tue à te répéter.
Essaye de me poignarder, tu penses que je ne le vois pas?
Ah, n'y compte pas, je serai sans pitié pour toi, t'entends, dis, hein?
Aucune ta vieille rancune, hein?
Non, tu vas entendre toute la vérité sur toi et la vérité sur moi.
Mais
ça, je te dis, il ne sait pas qui nous sommes.
Oui, c'est ça.
Et maintenant, il le saura. La vérité n'est jamais abordée, entendu.
Nous disons toujours la vérité.
Qui tu es, toi? Tu es le vice-directeur ou l'un des deux assistants de l'assistant vice-directeur?
Oui, presque.
Non, 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 tu es presque une outre vide. Comme nous tous. Et moi, c'est fini.
Oui, oui.
Alors écoute-moi bien, ça c'est...
Oh, je te connais.
Sais-tu pourquoi j'ai été sans adresse pendant 3 mois? J'ai volé un costard à Kansas City et j'ai été...
J'imagine que c'est...
Arrête de pleurer, tout ça c'est fini. Si on m'a renvoyé de partout, c'est parce que je volais.
Et à qui la faute?
Et je n'arrivais jamais à rester nulle part, tellement j'étais bouffi d'orgueil que je ne supportais aucun ordre de personne. Et ça, la faute
j'entends
à qui?
J'entends très bien.
Arrête, fille.
J'allais être grand patron, principal actionnaire en 2 semaines, et ça pour moi, c'est...
Vas-y, va te pendre.
Non.
Par rancune.
Non. Non. Non, personne ne va se pendre, Willy. J'ai vu toutes les choses que j'aime en ce monde, travailler et manger, et avoir le temps de s'asseoir pour fumer une cigarette. J'ai regardé ce stylo dans ma main et je me suis dit, à quoi bon? Pourquoi me forcer à faire comme si je voulais devenir ce que je ne veux pas être dans un bureau, me contraignant à correspondre au modèle minable qu'on veut m'imposer quand tout ce que j'aime m'attend à ma disposition? Si je dis, je sais qui je suis et pourquoi donc je ne le dirai pas à Willy.
Va-t'en, la porte est grande ouverte.
Papa, je suis parfaitement ordinaire comme toi.
Je ne suis pas parfaitement ordinaire. Je suis Willy Loman et tu es Biflo.
Je ne suis pas un meneur d'hommes, Willy. Et toi non plus. Tu n'as jamais rien été d'autre qu'un pauvre travailleur de force. Et t'as fini à la poubelle comme tous les autres. Je vois $1 de l'heure, papa. Je ne vais pas te rapporter je ne sais quel prix ni récompense. Et toi, tu vas arrêter de t'attendre à me voir les rapporter.
Voyou plein de mépris.
Alors, on arrive vers la conclusion inéluctable du film. Donc, la scène finale du film, donc cette explication familiale à huis clos où son fils ou Biff va expliquer à Willy Loman comment lui se voit et comment il voit son père. Et où surtout, il essaye en fait de se dégager de l'espèce de névrose qu'entretient son père, qui est peut-être d'abord un syndrome de l'échec, sentiment d'échec qui est lié à sa condition réelle, hein, quand même, de même pas de salarié, on a envie de commis voyageur, mais qui en même temps cette quête perpétuelle de l'argent, de la réussite, du coût financier, voilà, de l'image, de ce qu'il aurait voulu lui être et de ce qu'il n'est pas. Et alors évidemment c'est un peu mélodramatique puisque finalement Biff finir par pleurer dans les bras de son père, ce qui est ce que pour un Willy Loman tel qu'il a éduqué ses enfants est une aberration. Voir son fils pleurer, enfin bon, il y a 2 scènes hein, d'ailleurs dans le film où son fils pleure, et c'est 2 scènes dramatiques où c'est inacceptable, inadmissible, où le fils désobéit. Mais finalement la scène fonctionne comme une libération pour le fils qui lui dit que malgré tout il aime, même si qu'il n'a pas de rancune, voilà, qu'il a grandi, qu'il accepte les aventures extra-conjugales de son père et qu'il accepte aussi son échec, que c'est lui-même qui finalement ne vaut pas grand-chose, il vole, il a fait de la prison, il a toujours été... il a une éducation qui l'a rendu un peu prétentieux, orgueilleux, inconséquent avec ses profs, ses études, et donc il assume tout ça à l'âge où maintenant... Maintenant que son père semble avoir échoué. Donc c'est une histoire qui est un peu... c'est quelque chose qui peut se passer dans toutes les familles, ce qui est raconté là. C'est qu'à un moment, le fils doit se débarrasser de la projection du père et pour faire sa propre vie et se libérer de ça. Et curieusement, peut-être, alors c'est mon interprétation, ça libère Willy Loman à son tour. C'est-à-dire qu'il peut effectivement poursuivre son rêve de grandeur tout seul. C'est-à-dire faire un dernier coup, donner encore de l'argent à sa famille en se suicidant sans être traité de lâche ou de quoi que ce soit, puisque chacun vit sa vie. Alors c'est mon interprétation à moi. Voilà, puisqu'il y a cette scène, c'est parce qu'il y a cette scène que Willy Loman peut se suicider et aller au bout de son rêve malgré tout.
Il n'avait pas le droit de faire ça. Rien ne l'y obligeait. Nous l'aurions aidé.
Allez, viens, maman.
Pourquoi il n'est venu personne?
C'était un très bel enterrement.
Ah? Où sont toutes ses connaissances? Peut-être qu'il lui en
veut. Non, le monde est si dur, comment pourrait-on lui en vouloir?
Je n'y comprends rien. Pour la première fois, à peu près 35 ans, nous étions presque libérés de nos dettes. Il n'avait besoin que d'un petit salaire. Il avait même fini de régler le dentiste.
Nul homme n'a besoin que d'un petit salaire. Non, personne ne peut rien lui reprocher. Le démarcheur doit rêver. Ça fait partie du travail.
Je te dis qu'il ne savait pas qui il était.
Ne dis pas ça!
Pourquoi ne viens-tu pas avec moi?
Parce que je continue la lutte. Je vais rester pour conquérir la ville et montrer ce que je peux faire. Les frères Loman.
Je sais trop qui je suis, petit.
Comme tu voudras. Je vous ferai voir à tous que Willy Loman n'est pas mort pour rien. Et qu'il ne se trompait pas de rêve. Il n'existe pas d'autre rêve si l'on veut devenir numéro un. C'est ici qu'il s'est battu, c'est ici que je gagnerai, pour lui.
On se retrouve maintenant dans le cimetière. Et là, encore une déception pour lui, même s'il n'est plus là. Il n'y a plus que 5 personnes qui sont venues à l'enterrement. Pour lui, c'est la seule solution. S'il veut réussir quelque chose, il ne lui reste plus que ça à réussir. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que il a tout échoué. Et il n'a plus qu'un truc à faire, qu'il espère être un succès, c'est son suicide pour toucher 20 000 dollars.
Voilà, donc on vaut plus mort que vivant, selon lui. Alors c'est vrai, dans le cimetière, il y a 5 personnes, donc qui sont ses 2 enfants, sa femme, son voisin et le fils de son voisin, et c'est tout. Et finalement, c'est ce que dit Arthur Miller, c'est que c'est le mensonge de la vie sociale ou de la réussite sociale des gens qu'il a côtoyés pour vendre, le mensonge de la vie professionnelle qui fait que finalement, à l'heure de sa mort, tu n'as que tes proches et tes très proches qui seront là pour toi et foin des grands enterrements qu'on voit dans les films de gangsters où effectivement les enterrements sont grands parce qu'il y a quand même beaucoup de vassals qui sont obligés d'aller à l'enterrement. Donc voilà, l'enterrement d'un commis voyageur, c'est un enterrement où il y a de quelqu'un de la classe populaire, c'est un enterrement où il n'y a que ses amis et ses proches. Dans un mot de conclusion, quand même, c'est que ce film aborde des tas de thèmes, des thèmes très très différents, des thèmes familiaux. Et malgré tout, dans cette pièce, il essaye de montrer, via les relations interpersonnelles, les mécanismes qui conduisent d'abord à la reproduction sociale et au désir de réussir dans la société américaine malgré tout, de réussir parce que toute sa vie, l'espèce de rêve, de l'espèce de mythe perpétuel après lequel finalement chacun court dans toute cellule familiale, on se construit une identité, à la fois une identité réelle qui sont les relations qu'on a entre les gens et une identité fictive qui est celle de l'image qu'on se fait de soi-même, de sa représentation. Et l'image qu'on croit avoir au-dessus, et c'est les deux qui constituent le moteur du ménage économique, quoi. Mais aussi qui est un ressort psychologique vers toujours une accumulation de capital ou une réussite. Bien sûr, dans le film, Il dit clairement que c'est un mirage, qu'à la fin on est un salarié, que pour les classes modestes, pour la majorité des classes moyennes, c'est un mirage.
Il écrase sa cigarette, puis repousse le cendrier, se dirige vers les toilettes. La démarche mal assurée, il revient régler ses bières, le sandwich et son café. Il ne rentre pas ce soir.